rue, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède?
Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Hola, 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 bienvenue à tous et à toutes. Vous êtes à l'écoute et en direct du Canu Info du jeudi 11 octobre 2018. Et nous avons au micro vert Laurent ce soir.
Bonsoir Delphine.
Oui, voilà, ne réglez pas vos appareils, ce n'est pas un problème technique.
J'ai une nouvelle voix.
C'est la nouvelle voix. Vous voyez, il s'est absenté une semaine et il me revient avec une voix de canard. Nous allons donc faire avec ce soir. Vous nous excuserez donc si parfois il y a un peu des toux et puis des respirations un peu brutales. C'est l'hiver, paraît-il. En tout cas, nous ne sommes qu'en automne, mais il va déjà se passer plein de choses sur cette rentrée sociale. Il y a une petite manifestation mardi. En tout cas, nous allons parler ce soir des migrants. Avec Laurent, nous irons faire un petit tour du côté de la Malaisie. Nous parlerons d'Arabie Saoudite, de francophonie et d'amour avec Laurent. Nous aurons une grosse partie consacrée au nucléaire ce soir. Laurent m'a dit que ça faisait longtemps qu'il n'en avait pas parlé longuement. Donc voilà, nous allons parler de ça, entre autres, sur cette partie énergie et environnement. Nous parlerons local et médias avec TLM qui va bientôt devenir BFM Lyon. Ça me fait marrer rien de le dire. Nous parlerons peut-être d'Interpol. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous parlerons du concert que nous sommes allés voir hier à l'amphithéâtre de l'Opéra. Dans le cadre des concerts underground, nous sommes allés voir Louis Sclavis Quartet et puis peut-être d'autres choses, et de plasticiens. Mais voilà, on va essayer de construire tout ça aussi avec la bonne volonté de la voix de Laurent ce soir. Mais je voulais quand même ouvrir en disant que ça y est, une nouvelle réforme des retraites nous attend. Il y avait longtemps.
Ouais, puis celle-là, elle a l'air bien. On est sûr de tout perdre.
Ah bah ça, je pense que c'est simple et efficace pour que au moins une bonne fois pour toutes, on se dise bon, la retraite, j'en aurai pas. Alors évidemment, ça dépend de votre âge. Si vous êtes pas trop loin de la retraite, à quelques années, je sais pas si vous en êtes à 8 ans par exemple, vous vous dites oh là là, mais qu'est-ce qui va se passer pour moi? Bon, évidemment, si c'est dans 20 ou 25 ans, je pense que vous pouvez être à peu près désespéré, à moins qu'il n'y ait une petite révolution sociale d'ici là. Mais bon, malheureusement, pour l'instant, elle n'est pas en vue. Donc, il va falloir la faire. Je vous dis pas si vous voulez avoir une petite retraite. Alors, donc, c'est un super système qui va être plus lisible, paraît-il. Ben, ça, je vous ai dit, simple, efficace, lisible.
Oui, alors l'excuse, il n'y aura plus de régimes spéciaux, on met tout le monde à égalité, sauf qu'on met une égalité à peu près aux deux tiers des pensions actuelles. Si toutes les hypothèses qui sont parues dans la presse se réalisent, donc voilà, les pensions réduites d'un tiers à peu près, c'est quand même pas mal tout ça.
Oui, parce que c'est le mode de calcul qui va changer, donc au lieu d'être calculé sur vos meilleures années, je fais très court et très caricatural, bah ça va être au point, donc si j'ai maman, vous avez eu... beaucoup de mauvaises années, même si on a eu des bonnes, et ben tout ça va repartir évidemment sur le bas, puisque ben ça évidemment les moyennes vont être moins intéressantes. Alors on nous dit que l'âge de départ ne va pas changer.
Oh bah de toute façon on sera pauvre, donc l'âge de départ ça va pas changer, mais vu les retraites que ça va faire, les gens vont continuer à travailler.
Mais en même temps, il paraît que la réflexion va continuer sur ce sujet, donc ça veut dire que ça va changer. Enfin je sais pas, moi quand on continue à réfléchir sur quelque chose qu'on veut pas changer, c'est que malgré tout, on veut peut-être intervenir dessus.
Alors les mobilisations futures sur les retraites vont être donc du coup importantes, puisque là on a un vrai enjeu très très fort. Les précédentes réformes ont été des régressions sociales, certes, mais sans remettre en cause le système. Alors que là, ils cassent entièrement le système.
Oui, c'est puis ça touche tout le monde, hein, le privé, le public. Alors on explique aux fonctionnaires que c'est super parce qu'en fait leurs primes vont être comptées dans leur calcul de retraite, ce qui n'était pas le cas avant. Oui, alors sauf que il y a des gens déjà dans les syndicats et chez les fonctionnaires qui commencent à se dire oui là là. Est-ce à dire que demain on va avoir une remise en question de nos primes parce que si elles commencent à coûter cher dans le système de retraite, peut-être qu'à un moment on va nous dire que c'est un problème de fond. Puis tout le monde n'a pas les mêmes primes, donc en même temps tout ça casse le côté collectif quand même de notre système de retraite, mais ça fait partie hein, des pratiques de La République En Marche et de son grand chef empereur, Monsieur Macron. Donc on n'est pas très très surpris et surprise de tout ça, mais malgré tout, bon, ça commence à faire beaucoup. Les mobilisations sont pas très importantes. Bon, il faut dire que mardi, en même temps, moi je trouve que c'était un truc un peu pourri, excusez-moi, mais un vieil appel construit par la CGT il y a plusieurs mois, qui avec des bon, on sait plus bien pourquoi on va dans la rue, c'est pas simple, mais ça n'empêche pas qu'il y a de la colère malgré tout. Dans plein d'endroits, il y a des grèves. Mais moi, je me dis quand même que grâce aux syndicats, tout va bien se passer. On sait que la CFDT a déjà fait savoir qu'elle aimait bien ce système à points.
Ah bah, dans la série, hein, je suis un traître et je vais jusqu'au bout de ma traîtrise. Donc, oui, ils sont bons.
Voilà, et puis je sais aussi que grâce à FO, tout va bien se passer, puisque comme ils ont des beaux fichiers...
Oui, qu'ils fichent leurs militants avec des belles remarques.
Des adjectifs, oui, oui. Ouais. Oui, oui,
sale traître, anarchiste, tout ça. C'est
oui,
sympa.
Alors anarchiste est évidemment alors, pour nous, c'est limite une insulte.
Oui, alors que pour nous, c'est un compliment, mais ça on n'est pas à FO non plus.
Oui, en fait, l'anarchiste voulait dire qu'il fallait a priori se méfier de la personne. Ouais. Et puis il y en a qui sont trop intelligents aussi, j'ai compris, à FO, ouais, ça arrive. Il y en a, il faut qu'ils sont trop intelligents. Et donc, il ne faut surtout pas les placer dans des postes à responsabilité et à pouvoir au sein de FO. Donc c'est le Canard Enchaîné hein, qui a révélé cette petite affaire dans son édition de cette semaine. Voilà, c'est à lire si vous ne l'avez pas fait, et à lire dans le Canard Enchaîné et pas dans les versions que d'autres médias ont pu rendre. Mais tout de suite, je vous propose d'attaquer avec les migrants.
Bah oui, parce qu'on parle beaucoup des migrants de partout, on instrumentalise beaucoup les migrants, et en fait il y a une partie de l'immigration qui ne fait jamais l'actualité, c'est dans celle-là, c'est sur celle-là que je vais revenir. Et j'ai découvert aujourd'hui qu'il y avait en fait un salon international de l'immigration à Cannes, et ça aura lieu bientôt. Et là, je me dis, comment ça, un salon de l'immigration ? Ben oui, ça va concerner certains immigrés, certains migrants, et pas ceux que vous croisez dans la rue et qui dorment dans des tentes, bien évidemment. En fait, ce salon s'appelle le Salon international de l'immigration et de l'immobilier de luxe.
Ah, ah oui. Pardon, mais ça cogne déjà.
Ouais, c'est ça. Et grosso modo, il est question d'immigration, mais aussi d'optimisation fiscale. De choses comme ça. En fait, l'idée, alors si on prend le responsable du salon, il dit, nos clients sont des gens qui décident d'émigrer afin d'assurer l'avenir de leurs enfants. Alors ça, c'est la même chose que pour le migrant qu'on croise en bas de chez nous et qui galère. Sauf que là, c'est pas tout à fait de la même ampleur, puisque le responsable de ce salon explique que grâce à eux, ils vont pouvoir attirer des riches migrants, puisque c'est sur les riches dont il est question. Alors, forcément, on avait un doute. L'entrée au salon, c'est de 1000 euros. T'imagines ?
Pour tenir un petit...
Non,
juste
non.
Pour y rentrer ou pour tenir
rentrer,
un stand ?
Pour rentrer.
C'est pour les entreprises, presque, non ?
Pas du tout, c'est pour les riches. Ah. Plus 500 euros la soirée de gala avec huîtres et champagne.
Ah,
à volonté quand même.
Ah bah oui, les huîtres à volonté aussi.
Ouais. Donc voilà, bon, on avait bien compris que c'était pas pour les migrants pauvres. Alors dans les allées de ce salon, alors il y en a un tous les ans, on parle essentiellement russe et un petit peu chinois, indien, ukrainien, des langues comme ça. On parle pas du tout les langues qu'on peut connaître chez les migrants qu'on croise nous, c'est-à-dire qui viendraient d'Érythrée, du Soudan ou des choses comme ça. Pas du tout. Là, c'est plutôt l'Europe de l'Est qui est concernée, ou les riches chinois comme ça. Faut savoir que les autres éditions du salon hein, ont lieu en Chine, en Inde, dans les pays de l'Est, à Moscou, à Kiev ou au Kazakhstan. Ça situe un petit peu les choses. Alors c'est une entreprise qui organise ce salon. L'entreprise s'appelle Zagristana. Elle est basée à Londres et elle a été fondée par deux Ukrainiens. Donc l'objectif hein, c'est de faire venir les riches. D'ailleurs dans les allées du salon, les représentants sont essentiellement des banques qui pratiquent de l'évasion fiscale ou des paradis fiscaux. On retrouve Malte, Chypre, Antigua et Barbuda, Saint-Christophe et Nieves, Grenade, la République dominicaine, les États-Unis, hein, puisque les États-Unis sont, pour certains États comme le Delaware, des paradis fiscaux. Et tout ça dans le but d'attirer ces fameux riches futurs migrants qui viennent des pays que j'ai cités il y a quelques instants. Ils appellent ça d'ailleurs une sorte de résidence par l'investissement, c'est-à-dire les gens qui migrent et qui amènent leur argent. Alors, il y a eu plusieurs enquêtes, notamment l'ONG Transparency International, qui a déjà pas mal donné d'infos sur ce genre de salon. Eux, ils ont inventé un terme qui est beaucoup plus juste, un terme qui s'appelle, d'après eux, sont des gens qui viennent avec un visa doré. Effectivement, on comprend bien, puisqu'ils vont acheter leur nouvelle nationalité, puisque c'est de ça dont il est question. C'est une sorte de passeport shopping. On arrive avec de l'argent et on devient européen. C'est quand même chouette, hein, la vie des riches seulement. Alors, ça commence à se faire connaître. Il y a eu déjà des articles dans les journaux depuis 4-5 ans, mais personne ne bouge. Alors, je vais redonner quelques exemples. Par exemple, Antigua et Barbuda. Alors, c'est des petites îles dans les Antilles, hein, on les connaît pas bien. Sauf que une fois qu'on est... qu'on acquiert la nationalité de ce pays, on a accès sans visa à 135 pays dans le monde, dont l'Union Européenne, la Grande-Bretagne, Singapour, Hong Kong et d'autres. Ça coûte quand même 650 000 dollars, mais c'est pas si cher que ça finalement quand on est riche. Donc grosso modo, ces visas dorés permettent à des riches de se balader. Mais derrière ces riches, en fait, se cachent pas simplement le milliardaire, mais aussi les criminels, les hommes d'affaires véreux, les politiciens corrompus. Il y a eu des affaires où on a trouvé des proches de Bachar el-Assad qui étaient rentrés par ces visas achetés en Hongrie, par exemple. À Chypre, ça se passe de la même manière, parce que c'est une grosse porte d'entrée de l'Europe, Chypre. Comme Malte, d'ailleurs. Malte, ils vantent leur pays, c'est beau, il y a 300 jours de soleil, la fiscalité est super faible, et vous rentrez avec la nationalité maltaise un peu partout dans le monde et notamment dans l'Europe. Sur les 500 000 Maltais, il y en a 300 000 qui sont binationaux et plusieurs milliers ont acheté la nationalité. Combien ça coûte d'acheter la nationalité maltaise? Ça coûte à peu près 1 million d'euros. Il y a 650 000 pour le demandeur principal et après 25 000 pour le conjoint et 25 000 pour chaque enfant et le double si les enfants sont majeurs. Donc voilà, ou les parents de plus de 55 ans. Bref, il faut en plus acheter des obligations gouvernementales, 150 000 euros. Donc à la fin, grosso modo, ça coûte 1 million d'euros. Donc les riches peuvent migrer comme ça, tranquillement, de partout finalement dans le monde, en achetant ces nationalités qui leur permettent d'avoir un passeport d'un autre pays. C'est évalué à peu près à 600 000 passeports comme ça, 100 000 permis de séjour qui sont vendus, qui ont été vendus ces dernières années dans l'Union Européenne. Rien n'est fait pour lutter contre ça, parce que ça pourrait être interdit tout simplement. Malheureusement non, on pourrait couper l'accès aux gens qui viennent des paradis fiscaux sans visa. Du coup, ça enlèverait de l'intérêt, mais non, bien évidemment, on protège les paradis fiscaux encore et toujours, malgré le discours ambiant. Ça représente beaucoup d'argent, il y aurait 13 milliards d'euros par an à l'échelle internationale sur le marché des visas achetés comme ça par les riches. Bon bref, vous avez bien compris, quand on est riche et migrant, c'est super facile. Quand on est pauvre et migrant, il faut se farcir la Méditerranée et c'est beaucoup moins facile.
Alors, je vais parler très très rapidement des barbares, c'est-à-dire des pays qui pratiquent la peine de mort. Pour juste préciser un petit peu ce qu'on attendait de la part de la Malaisie, c'est-à-dire que le ministre de la Justice a annoncé hier mercredi que ça y est, la Malaisie allait abolir la peine de mort. C'est donc une bonne nouvelle pour une fois, c'est pas tout le temps, mais là, ça y est. Donc dès le 15 octobre, c'est-à-dire dès lundi prochain, il va y avoir des amendements qui vont être déposés au Parlement de la Malaisie pour donc abolir cette peine de mort qui se faisait... par pendaison.
Un truc un peu barbare, oui.
Ouais, rustique. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, voilà, c'est très très bref, mais juste pour dire qu'il y a quand même des fois, enfin, des États qui prennent de bonnes décisions.
Eh ben, je vais parler d'un pays qui pratique la peine de mort, et beaucoup, qui doit être deuxième ou troisième derrière la Chine. Il y a l'Iran.
C'est moins transparent, mais c'est un peu comme la Chine, on sait pas bien.
Donc là, c'est l'Arabie Saoudite. Alors, on va pas parler de la peine de mort, mais on va parler de l'Arabie Saoudite en général, et d'abord de l'Organisation Internationale de la Francophonie, puisque l'Arabie Saoudite a fait parvenir aujourd'hui un courrier pour l'ouverture du sommet de la francophonie qui a lieu à Erevan en ce moment, avec le chef de la France, hein, celui qu'on appelle Macron, Emmanuel de son prénom. Donc ils ont demandé le report de la demande d'adhésion, puisque l'Arabie Saoudite avait demandé à adhérer à l'Organisation Internationale de la Francophonie. Ce qui avait fait soit rire, soit vomir des personnes, parce que d'abord, il n'y a quasiment aucune personne qui parle français en Arabie Saoudite, et en plus, on en a un petit peu marre, qui s'incruste un peu partout, ce pays qui non seulement pratique la peine de mort, pratique l'esclavage, les discriminations sexuelles, fait tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on sait, d'un des pays les moins évolués de la Terre. On peut quand même le dire sur l'Arabie Saoudite, mais c'est un pays qui est très ami avec Emmanuel Macron, donc ceci explique peut-être cela. Donc, au départ, on vous rappelle, la francophonie, enfin l'organisme international de la francophonie, l'objectif c'est de réunir les pays qui partagent le français. Alors, dans les faits, c'est plus tout à fait ça. La Moldavie en fait partie, par exemple. Alors, il y a 2% de francophones en Moldavie. Quand vous allez en Moldavie, pour croiser un francophone, il faut se lever tôt. L'Égypte ou la Bulgarie, ils ont 3% de francophones. Il y a même l'Ukraine ou l'Uruguay qui ont 0,1% de francophones, mais ils sont qu'observateurs. Ce que demandait d'ailleurs l'Arabie Saoudite. Il faut savoir qu'il y a déjà des pays pas recommandables du tout et qui n'ont pas de francophones non plus, et qui sont soit membres associés comme le Qatar, soit comme les Émirats Arabes Unis, observateurs. En fait, vous allez me dire à quoi ça sert la francophonie. Je sais pas, pour la France, c'est un truc de grandeur issu du passé un peu grandiloquent là, de la France de Louis XIV, un petit peu là où c'était la nation dominante culturellement et aussi économiquement, mais surtout culturellement. Et il y a cette espèce de tradition colonialiste, mais culturelle plutôt. Et derrière tout ça, il y a le reste d'envie d'être forte sur le monde entier. Les États-Unis sont les maîtres du monde depuis l'après-guerre. Et la France essaye de garder comme ça, à défaut d'avoir gardé des colonies, elle garde une espèce d'aura grâce à cette langue française qui est encore parlée. C'est la 5e langue parlée dans le monde, qui est parlée dans pas mal d'endroits, dans des formes très diverses, hein, dans l'ancienne Afrique colonisée par la France, bien évidemment, mais aussi le Canada, enfin le Québec très exactement, la Louisiane, hein, qui a demandé à rentrer avec les descendants des Français qui étaient restés en Louisiane quand la Louisiane était française. Enfin voilà, on sent que derrière tout ça, il y a quand même de la connivence, il y a plein d'enjeux en fait qui se jouent dans ce truc-là, et pas simplement l'envie de partager la culture liée à la langue française, pas la culture française, la culture liée à la langue française, puisqu'il y a des écrivains non français qui écrivent en français et qui ont aussi leur place, bien évidemment. Donc voilà, c'est le ridicule cas de l'Arabie Saoudite. Et puis on va rester avec l'Arabie Saoudite, qui embête tout le monde en ce moment, et notamment qui a mis Donald Trump en porte-à-faux. Alors vous êtes au courant du journaliste saoudien qui s'appelle Jamal Khashoggi, qui est rentré dans l'ambassade dans le consulat d'Arabie Saoudite en Turquie, et qui n'en est jamais ressorti. Donc après, qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce qu'il a été assassiné? Est-ce qu'ils l'ont ramené discrètement en Arabie Saoudite pour l'emprisonner, le torturer? On ne sait pas. En tout cas, les images de vidéosurveillance montrent bien que ce journaliste rentre dans l'ambassade pour demander un document pour son mariage, et qu'il n'en ressort jamais, hein, bien évidemment. Ce qu'on a appris aujourd'hui, et c'est le Washington Post qui le dit, alors il faut savoir que le Washington Post était un des patrons du journaliste, hein, puisqu'il écrivait pour le journal américain. D'après ce journal, les services de renseignement américains avaient connaissance du projet d'enlèvement ou d'assassinat, on ne sait pas encore bien, du journaliste. Donc les services secrets américains auraient été au courant, et ce qui met Trump en porte-à-faux. Il faut dire qu'on rappelle que le Mohamed Ben Salman est très très pote, pas qu'avec Emmanuel Macron, mais aussi avec les hauts dirigeants américains, et donc en partie, bien évidemment, le blond à franges que nous connaissons bien. Donc voilà, alors ça complique la donne, le fait qu'il y ait eu cette révélation du Washington Post. Ce qu'on sait et qu'on vous rappelle, c'est que l'Arabie Saoudite, en dehors d'être un pays arriéré, un pays difficile à vivre pour les femmes, les homos, les opposants politiques, les gens de gauche, les gens intelligents, enfin tout ce qu'on peut imaginer de gens qui ne se plient pas au pouvoir, c'est aussi un pays qui est très très fort pour emprisonner des journalistes et pour les faire disparaître discrètement. On se rappelle... Alors, depuis septembre dernier, une quinzaine de journalistes comme ça ont disparu en Arabie Saoudite, avec des réapparitions tardives. On a par exemple Saleh El-Shihi, qui avait disparu en décembre 2017. Et en fait, il est réapparu en février 2018, au moment de son procès. Et pendant ces deux mois-là, personne ne savait où il était, ni sa famille, ni qui que ce soit. Et puis, on a appris que finalement, il avait été condamné à 5 ans de prison. Et là, ils l'ont fait ressortir, pour le laisser en taule, bien évidemment. Donc, ça arrive à pas mal comme ça, où les journalistes emprisonnés ressortent au moment de leur procès. Enfin, une fois que le jugement du procès a été fait, puisque les procès ne sont pas médiatisés non plus, forcément. Alors, il y en a pas mal, hein, comme ça. Donc, j'ai dit une quinzaine depuis septembre dernier, mais en tout, il y a, on va dire, à la louche, comme ça, une trentaine de journalistes, plus ou moins professionnels, parce que ça peut être des blogueurs aussi, qui ont disparu, hein, de la circulation en Arabie Saoudite, qui est très mal classé sur le classement de RSFE. Bien évidemment, sur la liberté de la presse, 169e. Il n'y a que 11 pays qui sont derrière l'Arabie Saoudite. Et ça n'empêche pas Emmanuel Macron et ses amis capitalistes, de vendre des armes qui vont servir dans la guerre que mène actuellement l'Arabie Saoudite. Ça ne pose aucun problème de conscience à Macron, qui est un collaborateur assidu, qui est un ami, qui est donc un crime, qui s'associe donc aux criminels qu'est l'Arabie Saoudite. Ça ne fait pas réagir, donc c'est toujours très triste de voir ça. Mais je vous rassure, ça va continuer comme ça.
Alors je te propose de faire une pause, et je vais poursuivre en parlant d'Interpol, parce que je trouve que ça va bien. Ouais. Dans l'idée, quand même.
Tu veux dire
disparition.
Le petit chinois qui a dit. Enfin,
On va y revenir, parce que c'est pas quelqu'un de bien. Meng.
Le petit chef, c'est un petit chef d'Interpol, c'est-à-dire tout en haut, là.
Ouais.
Le chef de la police du monde qui est.
Alors, c'est pas la police du monde, on va y revenir aussi, mais
c'est un truc horrible, Interpol, en fait.
Ouais, c'est un truc horrible. Mais c'est un peu de doom, tout ça. Tout ce que tu viens de dire là, c'est un peu de dont j'ai envie de reparler ce soir.
Explique-nous tout.
Alors, expliquez-nous tout. On va faire synthétique et il court quand même. Hein. Mais je vous rappelle que donc, fin septembre, Meng Hongwei, le patron d'Interpol chinois de la Chine, hein, la grande, pas de Taïwan, parce que des fois les gens disent chinois pour Taïwan, disparaît. Il a envoyé un message assez bref à son épouse. Attends mon appel. Déjà là, c'est craignos. Et puis quelques minutes après, elle reçoit une petite icône en forme de couteau. Là, ça recraint encore un peu plus. Elle essaye de le joindre et elle n'a jamais réussi à avoir de ses nouvelles après ce petit icône de couteau. Elle est, pour vous dire à quel point quand même elle semble tendue, c'est qu'elle était dans un hôtel ici à Lyon, puisque je vous rappelle que Interpol, c'est à Lyon, hein, depuis 1989 quand même. On a ce chouette truc ici, là, à côté, sur les quais. Elle est placée aujourd'hui sous protection policière, et dans cet hôtel, elle a reçu les médias, et elle tournait le dos aux caméras, pour vous dire à quel point elle veut même pas que son visage apparaisse. Donc la France avait ouvert une enquête pour sa disparition, et puis on a appris que la Chine avait fait savoir ce lundi que Meng Hongwei est accusé de corruption. On se doutait bien qu'il n'avait pas disparu pour rien, puisque il était en voyage en Chine, hein. Il rentrait un petit peu à la maison. A priori, le retour s'est pas très très bien passé. Bon, on avait appris, en reprenant un petit peu son parcours, que déjà sur cette année 2018, il avait eu quelques soucis, puisqu'il avait été démis de ses fonctions au sein du comité du parti chargé de superviser le ministère de la Sécurité publique. Alors c'est là où je vous dis qu'en fait, Monsieur Meng Hongwei n'est pas arrivé non plus pour rien à Interpol, et que c'est pas un gars bien, c'est qu'en fait, il vient de l'appareil sécuritaire chinois.
Bah, forcément, oui, pour être placé là, oui.
Alors, oui, forcément.
Sauf qu'il n'est plus dans les petits papiers du dirigeant actuel.
Alors, il était arrivé en 2016, il avait pris la suite de Mireille Balestrasi, une Française. Il faut reposer un petit peu les choses. Et alors, il faut savoir que Meng Hongwei était proche d'un ennemi de Xi Jinping qui s'appelle Zhu Hongkong. Kong. Et Zhu Hongkong, il a été condamné en 2015 à la prison à perpétuité pour corruption.
Bah, c'est, alors,
donc ça découle un peu, vous voyez.
La Chine est un pays très corrompu, et notamment les membres du Parti communiste, mais en fait c'est aussi l'excuse utilisée à chaque fois par le gouvernement pour faire les épurations.
Et depuis Mao Zedong et sa femme, il faut bien le dire que c'est un pays de clans, d'ennemis, hein, et qui se font disparaître. Quick, hein, on y va. Et donc maintenant la méthode, c'est plus tant de vous exécuter, quoique, mais c'est surtout de vous envoyer en prison pour corruption, abus de pouvoir, enfin divulgation de secrets, espionnage, tout un tas de petites choses absolument fabuleuses. Donc, bon, on apprend donc que la Chine le détient. On se dit qu'il doit être peut-être encore en vie, hein, puisque la Chine pratique aussi la torture, ça se sait. Toujours est-il que donc, on a appris qu'il y avait une démission avec effet immédiat du président. C'est sympa. Et c'est là où on s'aperçoit aussi des fonctionnements d'Interpol qui est quand même souvent critiqué pour sa non-transparence.
Oui. Hein,
c'est-à-dire que c'est pas une structure très très transparente. Alors rappelons que Interpol, le nom officiel, c'est Organisation Internationale de Police Criminelle, mais il faut pas imaginer que c'est un truc avec des agents de terrain. Hein, c'est pas les séries américaines avec du glamour dedans. Non, c'est plutôt un lieu qui regroupe des informations dans lequel il y a 192 États membres.
Et des États qui sont notamment des dictatures.
Bah, la Chine.
Voilà, par exemple. Voilà. Et du coup, c'est un outil pour rechercher, par exemple, des opposants politiques.
C'est exactement les fameuses notices rouges.
Voilà.
Dont on a beaucoup parlé. Alors, les notices, il y en a plein. Il y en a toutes les couleurs. Mais les plus connues et les plus critiquées sont ces fameuses notices rouges. Alors, Interpol dit ne jamais prendre parti politiquement, rester neutre.
Oui, mais elle permet la recherche et l'arrestation des opposants politiques.
Puisqu'elle va récupérer, en fait, des propositions des États membres qui vont permettre à Interpol de créer ces notices rouges, hein. C'est bien Interpol qui va créer ces notices rouges et qui ont permis à un certain nombre de pays, dont par exemple la Russie de Poutine, de s'attaquer à des opposants en les recherchant dans le monde entier alors que des opposants étaient en train de se cacher. Donc c'est un Interpol est très attaqué, hein, par les organisations des droits humains. Et d'ailleurs, quand ce Chinois est arrivé à la tête, les organisations comme Amnesty International avaient fait savoir que ça posait problème qu'on place à la tête d'Interpol, qui déjà est critiquable et critiqué dans ses fonctionnements, un homme qui vient des autorités de sécurité de son pays et d'un pays qui est connu aussi pour s'en prendre à ses opposants à l'international et sur son propre pays, sur le propre territoire chinois. Donc, voilà, c'est une structure qui est peu transparente, qui est financée en partie, hein, par les cotisations, on va dire, de ses membres. Mais Interpol va chercher maintenant de l'argent dans des mécènes, oui, dans d'autres structures, d'autres organismes, parce qu'apparemment, l'argent n'est pas assez important. Alors, en 2017, j'ai trouvé un budget, plus de 124 millions d'euros. Voilà, à peu près, 54 millions versés par les cotisations, les contributions des 192 pays membres. Les États-Unis, évidemment, versent beaucoup. J'imagine que M. Trump va se plaindre. La France versait en 2017 plus de 3 millions d'euros. Et puis voilà, donc il y a des agences gouvernementales qui vont donner des sous, des organisations internationales, des sociétés privées. Donc là aussi, il y a une accusation qui se met en place. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu qu'il y avait des industries, par exemple, pharmaceutiques, du tabac, qui allaient aussi donner de l'argent et Interpol. On avait aussi appris qu'il y avait la FIFA qui avait donné des sous. Et puis, ça veut dire aussi que si c'est une organisation d'un pays, mais pas l'État directement, peut-être qu'elle participe aussi à la chasse aux opposants et donc ne participe pas à une amélioration des droits de l'homme dans un certain nombre de pays. Donc, en fait, ce qu'on peut critiquer là aussi, c'est que Interpol a très très peu commenté cette disparition de ce patron Meng Hongwei, patron d'Interpol. C'est juste que bon, bah ok, il a démissionné, très bien, on a appris qu'il y aura un successeur ou une femme, un homme, on ne sait pas, qui va être désigné en novembre lors de la prochaine assemblée générale qui va se dérouler à Dubaï. Voilà, mais on s'aperçoit là encore qu'Interpol ne cause pas trop et continue dans sa lancée à rester finalement assez opaque et en améliorant pas trop ses fonctionnements. Voilà. Je peux juste rajouter aussi que dans la guerre entre les États-Unis d'Amérique et la Chine, on a appris qu'il y a un Chinois qui venait d'être envoyés, arrêtés, rapatriés, on peut dire ça comme ça, aux États-Unis d'Amérique. Il y a une enquête qui est menée aux États-Unis d'Amérique et on accuse ce Chinois qui s'appelle Xu Yanjun d'avoir volé des informations confidentielles qui auraient permis de surveiller des experts et en particulier dans l'aviation. Donc ça fait partie un petit peu, vous savez, de cette guéguerre hein, commerciale qui se joue, qui est très sérieuse, hein, j'emploie le mot guéguerre, mais c'est une guerre très sérieuse commerciale entre les États-Unis d'Amérique et la Chine. Et il y a des petits problèmes diplomatiques et donc on arrête aussi en ce moment des gens. Donc voilà, la Chine a priori envoie quand même un petit peu des gens espionnés à l'étranger. C'est pas juste l'Amérique de Monsieur Trump qui s'en prend à des Chinois.
Non. Alors on va parler énergie et environnement et on va commencer par quelques petites infos radioactives parce que ça fait un petit moment que je ne l'avais pas fait. Alors la nouvelle du jour, ça nous vient de la Meuse. Alors pas le département, alors je sais pas, il y a un accent différent, tu veux dire, dans la Meuse ?
Je sais pas.
Dans la Meuse, donc pas le département mais surtout le fleuve qui est à un niveau bas et à un débit faible. Il faut dire qu'il ne pleut pas beaucoup en France, alors on me dirait en ce moment il n'y a plus beaucoup dans le sud de la France. Mais la Meuse n'est pas dans le sud de la France, jusqu'à preuve du contraire. Donc effectivement, les débits sont descendus en dessous de 22 mètres cubes par seconde, ce qui est trop bas. Faut dire qu'il y a un accord transfrontalier, hein, puisque la Meuse est en partie commune avec la Belgique d'à côté. Et l'idée, c'est qu'on ne doit pas descendre. Alors c'est sur 12 jours glissants, hein, les fameux jours qui glissent là. Donc les 12 derniers jours avant, il ne faut pas que la Meuse descende en dessous de ça. Enfin sous les 20 mètres cubes par seconde, etc. Sinon, il se passe quoi ? Ben, il se passe qu'il s'est arrêté. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est qu'une tranche de la centrale nucléaire de Chose a été arrêtée. Alors il y a encore suffisamment de débit. Je vous rappelle, quand on arrête une centrale nucléaire, il faut la refroidir pendant plusieurs semaines, parce que le cœur reste chaud. Donc il y a suffisamment de débit pour refroidir la cuve à l'arrêt, mais pas assez quand elle est en fonctionnement. Ça nous rappelle un truc, c'est que les centrales nucléaires sont ultra fragiles face au changement climatique et notamment au réchauffement qu'il peut y avoir et au manque de pluie qu'on a subi cet été mais qu'on subit de plus en plus. Et qu'effectivement, on en reparlera tout à l'heure, mais le choix du nucléaire comme une alternative pour sauver la planète est un truc qui fonctionne pas du tout, bien évidemment. Toujours dans les infos radioactives, le nouvel épisode sur l'EPR de Flamanville. Vous savez, cette centrale nucléaire qui coûte trois fois le prix. Donc, hein, parce que quand on est une entreprise et qu'on vend une centrale nucléaire à EDF, on lui donne un prix qui est pas le vrai. Alors vous, quand vous achetez la baguette de pain, c'est comme vous y allez, on vous dit c'est 95 centimes, et puis au moment de payer, on vous en demande 3 euros. Et ben c'est ce qui se passe avec les grosses entreprises, et notamment avec le nucléaire. Elle était vendue pour 3 milliards, je crois qu'elle en est à plus de 9 milliards, ou c'est un truc comme ça, enfin l'ordre de grandeur c'est 3 fois plus. Mais ça pose pas problème qu'il y ait eu tricherie là-dessus. Personne ne remet ça en cause, c'est pas grave, tout le monde vole, mais on s'en fout. Par contre, ils arrivent toujours pas à la mettre en route, ils savent toujours pas quand ils vont la mettre en route. Et là, on avait un rapport de l'autorité de sûreté nucléaire, l'autorité soi-disant ou pseudo-indépendante, on va dire, qui surveille un petit peu tout ce qui touche au nucléaire civil en France. Et elle devait redonner une autorisation ou non sur la cuve et surtout sur le couvercle de la cuve. C'est la cocotte minute dans laquelle il y a les barres d'uranium et dans laquelle il y a la fission nucléaire qui va dégager de la chaleur. Puisque aux analyses, hein, l'acier de la cuve et donc surtout du couvercle contenait plus de carbone que prévu, ce qui rend l'acier un petit peu plus fragile que ce qui est prévu par la norme. Donc on attendait avec impatience le retour de l'autorité de sûreté nucléaire qui a dit que bon, finalement, vous avez le droit de garder votre cuve et de garder le couvercle. Par contre, le couvercle faudra le changer en 2024. C'est-à-dire qu'IDF va mettre en route une centrale peut-être en 2019, si tout va bien. 5 ans après, ils seront obligés de l'arrêter pour changer le couvercle de la cocotte minute. Un truc qui coûte quand même très très cher. On est en centaines de milliers d'euros, bien évidemment. Et en plus, ça sera super radioactif, puisque la centrale aura tourné au moins 4 ans, si tout va bien. Donc voilà, c'est une escroquerie. Alors c'est assez surprenant que l'autorité de sûreté nucléaire valide en demandant de changer, parce que s'il y a des défauts dans le couvercle, autant le refabriquer. Alors on a l'impression que les industriels français ne savent plus fabriquer ces aciers très spéciaux qui doivent supporter et la radioactivité et la pression qu'il peut y avoir dans une centrale nucléaire. Mais bon, il y a des pressions aussi sur l'autorité de sûreté nucléaire qui doit plier comme ça devant le gouvernement et devant EDF. Toujours sur le nucléaire, et cette fois on va parler de nucléaire militaire, une plainte a été déposée le 2 octobre dernier devant la Cour pénale internationale contre la France, qui est poursuivie comme pour crimes contre l'humanité. On se dit, ouah, ça pète. Alors, des crimes contre l'humanité, la France en a, j'imagine, et je l'imagine pas, mais on en a fait dans le passé. La colonisation est un crime contre l'humanité. Les différentes guerres que la France a pu faire aussi, quand c'était pas des guerres défensives. Donc, ouais, on connaît ça. Et là, c'est pour quelle raison? C'est pour les essais nucléaires. Alors, bien, c'est une instrumentalisation politique, il faut quand même en parler, hein, puisque c'est Oscar Temaru, indépendantiste, bien connu, qui a perdu les dernières élections, et qui a bien perdu les élections, hein, et qui a déposé cette plainte. Donc lui, il estime que la France fait pas assez. Il a bien évidemment totalement raison, mais la défense de la France, alors la France s'est pas exprimée, donc c'est l'ONU, la Cour pénale internationale dépend de l'ONU, hein. L'ONU a interrogé d'abord Oscar Temaru, bien évidemment, ainsi que le président de la Polynésie française, Édouard Fritsch, qui a gagné largement aux dernières élections, qui a expliqué que la Polynésie française était un pays autonome, qui gouverne librement et démocratiquement. Bon, il dit pas que c'est quand même un petit peu avec la main de la France derrière, mais bon, c'est pas totalement faux non plus ce qu'il dit, c'est juste incomplet. Et il dit donc lui qu'il y a effectivement il y a un petit problème avec la France, mais il valide pas en fait ce dépôt de plainte. Mais en fait, ce dépôt de plainte, c'est une guéguerre entre les deux hommes politiques. Pourquoi c'est une guéguerre? Parce que la Cour pénale internationale, a priori, devrait pas pouvoir aller plus loin que ça avec cette plainte. Parce que les plaintes, normalement, ne sont possibles que quand il y a une série d'actes horribles, comme l'extermination, les meurtres, les viols, les tortures, dans le cas, dans le contexte d'une attaque contre la population civile. Or là, c'est des essais nucléaires qui ont eu lieu, non pas contre la population civile, mais contre les gens qui n'étaient pas trop loin, et puis il y a eu des fuites, etc. C'est pas défendable, ce qu'a fait, bien évidemment, les imbéciles de militaires français. Mais ça rentre pas dans la définition telle que la CPI le définit. Et puis normalement, c'est les États qui porte plainte, et pas les personnes. Du coup, sa plainte, il y a toutes les chances qu'elle aboutisse pas. Mais, en fait, le but, c'est pas qu'elle aboutisse, et je pense qu'il est pas complètement débile, cet indépendantiste, hein, on l'a déjà entendu, donc il sait parler, il sait réfléchir. En fait, il veut à nouveau faire parler et remettre la pression sur la France. Il faut savoir qu'il y a une loi qui a été mise en place qui s'appelle la loi Morin pour dédommager les Polynésiens victimes des essais nucléaires avec des taux de cancer bien plus importants qu'ailleurs, etc. Il y a presque un peu plus d'un millier de dossiers qui ont été déposés, 19 ont abouti. Donc effectivement, le gouvernement français fait tout pour jamais indemniser ces gens-là. Le gouvernement français, et enfin la France en fait, attend que ces gens meurent pour éviter de les dédommager. Donc ça, c'est inadmissible. Bon, je sais pas si l'action de M. Temaru, d'Oscar Temaru, avait autre chose comme valeur, mais en tout cas, elle a cet intérêt-là, c'est de refaire parler du problème des essais nucléaires français en Polynésie. Et toujours sur le nucléaire... ce qui est en train de se préparer, ce qu'on appelle le PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, le gouvernement va la valider d'ici la fin de l'année. On apprend qu'il y aura un recul sur la réduction du nucléaire. Hein, on rappelle que normalement, en 2035, le nucléaire devra représenter que 50% de la production électrique française, au lieu de 75% ou 78% aujourd'hui. Et il y aurait un gros recul, donc tout le monde essaye de se mobiliser. Alors d'abord les écolos bien évidemment, et puis les industriels du secteur qui pensent que si jamais cette programmation pluriannuelle ne va pas jusqu'au bout, parce que 50% de nucléaire c'est rien, il faudrait être à zéro, je vous le rappelle. Mais les professionnels craignent que il y a un désinvestissement sur les énergies renouvelables non rentables, parce qu'aujourd'hui une partie des énergies renouvelables produisent de l'électricité moins chère que le futur réacteur EPR, comme les éoliennes et le solaire, donc il n'y a pas besoin d'aide de l'État. Par contre, pour le reste, il y a encore besoin d'aide de l'État, notamment pour les éoliennes en mer. Et les industriels sont inquiets. Et alors, on va pas défendre les industriels parce qu'on s'en fout. Mais du coup, ils ont l'inquiétude qu'ils montrent est un vrai problème. Et alors, il y a aussi des enjeux économiques importants sur ce fameux PPE, cette programmation pluriannuelle de l'énergie, et ça fait réagir certains élus de certaines collectivités, quatre, et qui ont toutes les couleurs politiques. On retrouve deux socialistes et deux républicains, des collectivités qui sont soit en Atlantique, soit en Méditerranée, sur l'éolien offshore. Et effectivement, eux aussi, ils ont peur que l'État recule sur les investissements sur cet éolien offshore. Donc, et eux, ils se placent que du point de vue économique, ils en ont rien à foutre de l'écologie. Ce qu'ils voient, c'est que ça ramène plein de choses, de la taxe, du travail, tout ce qu'on veut. Et c'est intéressant de voir que derrière les enjeux du PPE, il devrait y avoir que des enjeux écologiques, et en fait il y a plein d'enjeux économiques qui viennent se greffer dessus. C'est un enjeu économique, hein, la propagande nucléophile d'EDF et d'Areva et d'autres. Mais voilà, c'était juste pour signaler cette petite chose. Et puis je voulais juste, pour terminer cette rubrique sur le nucléaire, vous incitez à aller lire la tribune qui a été publiée sur le site d'Alternative Économique mercredi la semaine dernière, on était le 3 octobre, qui rappelle avec quelques petits descriptifs que le nucléaire n'est pas un allié dans la lutte contre les dérèglements climatiques, puisque l'impact est relativement faible du nucléaire et n'apportera pas de solution. Il y a tout un discours, je ne vais pas détailler ici, mais c'est intéressant de l'avoir ce discours, parce que il y a une grosse propagande actuellement de la part des nucléophiles pour faire croire que le nucléaire va sauver le climat. On vous rappelle que le nucléaire n'est pas une énergie décarbonée, elle émet moins de CO2, mais pas de CO2. Pour info, à titre d'exemple, une voiture diesel émet 22 grammes de CO2 par kilomètre parcouru, une voiture électrique 9 grammes. Donc vous allez me dire, c'est un peu plus de deux fois moins, mais c'est pas zéro, contrairement à ce qu'on nous laisse entendre dans la propagande des constructeurs automobiles ou d'EDF. Et divisé par deux, ça suffit pas, bien évidemment, et c'est que sur les voitures dont il est question. Sur l'ensemble de l'énergie, le nucléaire reste négligeable, quoi qu'il arrive. Et puis pour terminer sur l'environnement, je voulais revenir sur un truc très très difficile aujourd'hui dans les débats, c'est de parler de la limitation des naissances. Puisqu'il y avait une dépêche qui avait été relayée par l'AFP sur une étude qui concluait que avoir un enfant de moins, c'est le moyen le plus efficace pour lutter contre le réchauffement climatique. Il y a des chiffres à l'appui, c'est assez facile à retrouver, et c'est assez logique. Effectivement, entre une famille qui fait pas d'enfants et une famille qui fait un enfant, l'impact de cet enfant, il va être énorme. Les parents sont responsables au moins jusqu'à sa majorité, après on peut les mettre sur la personne elle-même, mais l'impact, il est énorme sur la planète. Et il y a eu une tribune publiée sur le Figaro Vox, et on a tous ces pro-reproduction, tous ceux qui veulent qu'il y ait de plus en plus d'êtres humains sur la Terre, qui ont repris la parole pour condamner l'étude, condamner l'AFP, et traiter les autres de malthusianistes. Alors, c'est pas une insulte, malthusianiste, c'est juste de dire que peut-être qu'il faut réfléchir sur le nombre de personnes présentes sur la planète Terre, et que quand on atteindra les 10 milliards, ça posera peut-être problème. Et on rappellera d'ailleurs à ces imbéciles qu'un enfant de moins qui naît dans un pays occidental, ça a un impact vraiment énorme sur l'état de la planète, contrairement à un petit enfant africain qui a très peu d'impact, vu que le pauvre, de toute façon, il va pas beaucoup consommer.
Tous les Africains ne sont pas pauvres, juste.
Non, mais sur la moyenne du continent africain, ça marche.
Oui, je
parlais de la moyenne du continent africain, voilà. Donc oui, c'est un sujet dont personne ose parler réellement, l'impact de la natalité et de la natalité des pays occidentaux, parce que c'est eux qui ont un impact réel sur l'état de la planète. C'est vraiment un tabou, on n'en parle jamais, et je trouve ça toujours très triste, puisqu'on parle essentiellement de l'idée de continuer de se reproduire et de plus en plus. Voilà, c'était juste pour rappeler ça, que ça fait partie aussi des luttes et du discours qu'on doit avoir, c'est-à-dire de réfléchir sur la place de l'être humain et de la quantité d'êtres humains sur une planète aussi petite aujourd'hui qu'est la Terre par rapport aux 7 ou 8 milliards que nous sommes.
Alors on va ouvrir maintenant une page médias et culture, si vous voulez bien, avec cette information économique de la semaine.
Génial.
TLM va devenir BFM Lyon. Et oui, puisque c'est le groupe Altis, le groupe de M. Drahi, qui va racheter la chaîne locale TLM. Alors TLM, c'est quand même 2 millions d'habitants potentiels qui pourraient écouter, regarder TLM. Alors vous allez me dire, ah bon, c'est quoi? Surtout si vous êtes étudiant par exemple.
Mais moi je me rappelais même pas que, enfin je savais même pas que ça existait encore.
Alors c'est sur la TNT et puis il paraît que sur les box, sinon c'est loin en général. Loin avec les autres chaînes locales. Donc on a appris que il y avait eu des... Alors, on savait hein, depuis le mois de septembre qu'il y avait des négociations en cours. Je vous rappelle que Altis c'est BFM TV et RMC par exemple. Et puis Monsieur Drahi avait déjà racheté en 2016 une petite chaîne parisienne pour l'appeler BFM Paris. Il est donc en train de nous lancer des BFM au niveau local. Quelle fierté avons-nous encore. On avait déjà Gérard, maintenant nous voilà donc avec BFM. On est comblés. Alors on ne sait pas combien tout ça est chiffré. Il n'y a pas de montants qui ont été communiqués. On sait que on attend maintenant la position du CSA, c'est-à-dire l'agrément du CSA, hein, puisqu'il y a des petites analyses. Mais enfin on se dit que quand même si on a été informé qu'il y avait la finalisation du protocole d'accord.
C'est qu'on ne doit pas être loin, oui.
Ouais, c'est que le CSA est dans les clous derrière, que ça va suivre. En plus, on nous annonce que tout ça va se passer d'ici la fin de l'année et que premier trimestre 2019, ça va donc s'appeler BFM Lyon. Alors, il paraît que ça va. Alors, ce qui est dingue, c'est que TLM allait fêter ses 30 ans, là. C'est-à-dire qu'il y avait toute une mobilisation qui est en train de se faire au niveau de la programmation. Ok, t'en avais rien à faire, mais quand même, je te raconte. Ce qui veut dire qu'à mon avis, ça bouleversifie quand même un petit peu la donne.
Parce que du coup, ils feront jamais les 30 ans de TLM, mais les deux jours de BFM TV.
Alors si, ils vont peut-être les faire, mais tu vois, par exemple, des gens comme Yves Calvi,
une fois que tu changes de nom,
connus maintenant, sont passés par TLM, juste pour raconter.
Ah bon ?
Ouais. On avait oublié cette affaire.
Comme quoi, TLM,
il faut bien démarrer quelque part.
Vraiment une chaîne médiocre, parce qu'elle a enfanté Yves Calvi.
Alors, il paraît que ça va être une chaîne d'information 100% locale et en temps réel, sur le modèle des chaînes locales des États-Unis d'Amérique. Ça va être magnifique. Je vous le dis. Alors, je suis allé voir sur BFM Paris, c'était quoi la programmation? J'ai pas réussi à comprendre sur le site internet exactement le contenu. J'ai tenté de regarder quelques vidéos, mais vous savez, tout est découpé. C'est-à-dire que vous avez tous les sujets sont découpés. Donc, c'est assez peu intéressant, puisque c'est un peu comme si vous aviez des pages d'articles, hein, quand vous allez regarder ces vidéos. C'est pas quelque chose de lisible en termes de programmation. Alors, il paraît que les studios vont donc rester ici à Lyon, avec une rédaction locale. Moi, je demande laquelle. C'est-à-dire qu'il y a quand même des salariés ici. Il faut savoir que TLM a eu des grosses difficultés économiques, et puis qu'ils ont que la chaîne a redressé la barre, donc ça va bien. Donc Monsieur Drahi n'achète pas non plus un déchet, hein, achète une entreprise qui va bien. Donc il faut aussi savoir qu'il y a des correspondants locaux de BFM TV. Donc est-ce que tout ça va fusionner? Il paraît que non, ils vont garder tout le monde. Moi, je me méfie toujours des grands propos de ce type. En tout cas, c'est Laurent Constantin qui était le patron de TLM depuis 2014, qui doit être tout content de son affaire. Laurent Constantin, il se payait plus, hein. Il paraît qu'il faisait ça bénévolement à côté d'autres activités et qu'il est très très fier d'avoir relancé TLM. Alors c'était un groupement hein, d'actionnaires. Il n'est pas tout seul, mais c'est lui qui était à la tête et qui était surtout très médiatisé. Très médiatisé à notre niveau et dans l'échelle de l'économie aussi. Hein, parce que quand même on parle de lui, c'est quelqu'un qui est très start-up, vous voyez, il aime ce petit côté-là, il est très Macron finalement, je ne sais pas s'il vote Macron, mais en tout cas, le côté start-up, ça il aime bien, d'ailleurs les gens s'étaient un peu demandé comment tout ça allait se passer quand il allait débouler avec ses idées modernes et contemporaines de l'entreprise. Toujours est-il qu'effectivement, il a redressé la barre, donc on peut se dire qu'il n'a pas vendu ça non plus pour rien. Le problème, c'est pas tant que TLM devienne BFM Lyon, c'est plutôt qu'il y a une concentration des médias Et c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que on a encore, que ce soit Altice ou d'autres, une concentration des médias, que ce soit dans la presse papier, dans les radios et la télé. Et que au fond c'est ça, parce que finalement moi je me fiche pas mal de savoir si TLM devient BFM Lyon, mais c'est plutôt que on a encore des groupes qui ne font que se concentrer et se resserrer pour appartenir à très peu de gens. C'était tout ce que je voulais en dire. Je vous disais que nous allions parler culture et on va reparler du concert que nous avons vu hier à l'amphithéâtre de l'Opéra et ça nous donnera l'occasion de parler de la nouvelle programmation de cet amphi, mais qui n'est plus qu'une programmation amphi puisque ça s'appelle Concert Underground avec un nouveau directeur dont nous allons parler, Olivier Conan. Mais d'abord, retour sur ce concert, Louis Clavis Quartet avec à la, donc évidemment Louis Clavis, à la contrebasse Sarah Murcia, au piano Benjamin Moussa, que vous connaissez sûrement, et à la batterie Christophe Laverne. Je dis Benjamin Moussa parce qu'il tourne beaucoup avec d'autres ensembles. Donc il a une grosse chevelure, hein, si vous voyez le pianiste un petit peu brun, voilà. Donc des gens assez jeunes, hein, qui entourent Clavis pour...
Qui n'est pas jeune du tout.
Ah, il n'est pas si vieux. Il n'est pas si vieux. Ouais. Ouais. Donc c'est un concert...
Ouais, je crois que le premier concert de Louis Clavis que j'ai vu, je devais avoir 18 ans. Quoi, donc...
Ouais, comme t'es un peu vieux maintenant.
Ouais, voilà, c'est ça, ouais.
On va dire vous aviez peut-être vieilli ensemble aussi.
Ouais, je pense qu'on a vieilli ensemble.
En tout cas,
il, pas être beaucoup
il est accompagné par de... Ouais. Jeunes musiciens et musiciennes que moi je trouve très intéressant sur une création qu'il a entamée ailleurs et qui poursuit pour cette année 2018 qu'il a menée en plusieurs étapes qui s'appelle Character on the Wall et il travaille autour du plasticien Ernest Pignon Ernest. Vous connaissez peut-être le travail de Bansky, on pourra peut-être en parler si j'ai le temps, ou du travail de JR, hein, ses collages. Et ben Ernest Pignon Ernest, c'est exactement ce qu'il fait.
Il le faisait
collage.
Même avant.
Ah oui, il le faisait bien bien avant.
Voilà. Là, on l'a connu en Italie, on l'a connu dans pas mal d'endroits, en Palestine, tout ça. Et il colle, voilà, c'est un sujet. Souvent, alors même si lui, il se défend d'être politique, c'est. Enfin, il se défend. Pas
non,
toujours, mais oui.
Quand même,
mais
il a un regard politique
voilà,
sur les choses.
C'est un regard social et politique, et ça décrit quelque chose, ça dénonce quelque chose, et il a un travail qui est assez classe, hein, donc, Ernest Pignon Ernest.
Ouais, c'est assez beau. Et alors, c'est un travail que Clavis avait déjà commencé avec Napoli's Wall, hein, autour déjà de ce même plasticien. C'était au début des années 2000.
Un très bon disque d'ailleurs.
Ouais, il y a le disque, c'est ce que j'allais vous dire, puisque là, pour ce concert-là, bah, je ne peux pas vous proposer le disque, hein, puisque c'est un travail en cours sur cette année 2018 qu'il a commencé à Paris. Et il va créer ses 8 compositions, ses 8 pièces autour à chaque fois d'un collage du plasticien. Et donc à chaque fois, c'est très précis. Alors on va aller sur Pasolini. On va suivre Pasolini. C'est très très beau. Hein. Allez voir sur internet. Vous tapez Ernest Pignon, Ernest Pasolini. Vous allez voir, c'est magnifique. Mais on va suivre aussi Genet à Brest. On va suivre Rimbaud et puis le poète Darwish.
Ouais, Mahmoud Darwish, donc en Palestine.
Voilà. Il va nous faire une composition qui s'appelle Prison sur la prison Saint-Paul, ici à Lyon, hein, Clavis. Donc voilà, on va donc avoir ce rapport, ce jeu de dialogue entre le plasticien et le musicien. Moi, je trouve que c'est très très beau. Toi, tu aurais aimé que les collages soient diffusés.
Il parle des images et on les voit pas. Du coup, moi, à part Mahmoud Darwish, les autres, je me rappelais pas toujours toutes et je les ai cherchées après le concert. Mais voilà, moi, je pense qu'il aurait pu les projeter. Après, moi, je trouve que le concert, il est comme d'habitude avec Louis Clavis. Hein, c'est un peu toujours pareil et c'est toujours aussi bien. Donc, si on aime Louis Clavis, c'était un super concert de Louis Clavis. C'est vrai qu'il y a eu, on l'a connu où il parlait pas du tout, où il avait du mal à parler. Là donc du coup il parle pas mal. Après voilà, c'est juste Louis Clavis, c'est un grand musicien, c'est super bien et comme d'habitude. On le connaît bien parce que je vous rappelle qu'il est lyonnais d'origine et qu'avant on le voyait pas mal quand il a commencé. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître et on le voyait beaucoup. Maintenant on le voit moins parce qu'il doit plus habiter à Lyon. Le Louis Clavis, musicien internationalement reconnu, clarinette basse essentiellement, peu le fils spirituel de Michel Portal. Et puis voilà, bon, c'est un immense musicien et la prestation était vraiment super sympa. La salle, alors ce qu'on peut pas dire, la salle, donc c'est la petite salle qui est en bas de l'opéra, là, l'amphithéâtre. Et alors ils appellent ça cancer underground. Alors moi j'ai juste envie de rire.
On va revenir
sur le nom parce que je vois pas ce que c'est.
Alors c'est dans le cadre d'une programmation qu'on a vu ce concert. Ouais. Juste pour dire que moi je suis pas d'accord avec toi dans le sens où moi j'ai. Mais ça c'est vraiment. C'est pas que je suis pas d'accord avec toi dans le sens où je te critique. C'est juste qu'on a une vision qui est différente et une perception différente finalement de ce concert puisque moi ne pas avoir l'image m'a permis vraiment d'imaginer finalement la fuite de Rimbaud dans la composition d'Arwish dans la ville. Et ben oui, je l'imaginais en train d'un seul coup de flâner, d'accélérer. Donc voilà, on a une projection, je pense, qui est très personnelle. Et c'est ça aussi qui est intéressant avec la musique. C'est que pour ce concert, Sclavis nous emmène finalement à travers à la fois la poésie, à la fois la musique, à la fois les arts plastiques. Et que c'est aussi ça le spectacle. Et que c'est ça qui est chouette. Alors, pour rebondir ce que tu disais, effectivement, il y a donc un nouveau patron qui s'appelle Olivier Conan, qu'on avait croisé. C'était pas une interview du tout, hein, je tiens à le préciser. Mais on l'avait croisé dans le cadre d'un vernissage du batteur Daniel Humer. Qui, oui, fait aussi de la peinture hein, sur ses vieux jours. Quelqu'un de très, très sympathique. Et on avait eu la chance de croiser Olivier Conan qui commençait à s'installer, puisqu'on a un directeur.
Ouais, on avait eu de la chance. En fait, Daniel Humer était venu nous parler, hein, parce que j'avais un t-shirt Magma et du coup.
Ouais, ok, voilà, voulait, ça avait du coup créé du lien.
Il voulait parler batterie un peu.
Voilà, donc c'était une rencontre assez sympathique, assez croisée entre à la fois programmateur, musicien et puis nous. Un peu rien au milieu, ou juste fan, je sais pas. Peut-être le concert Daniel Humer qu'il avait donné l'année dernière à l'Opéra en grande salle était absolument fantastique, il faut le dire. Donc on a Olivier Conan qui arrive, nouveau programmateur, nouvelle idée. Alors l'idée de cette opéra underground, c'est de casser le rythme qu'il y avait jusqu'à présent à l'amphithéâtre. Si moi j'ai tout compris. Il faut dire que Monsieur Poster avait pris cette salle quand l'opéra avait été rénové et avait réussi à la faire vivre à côté de la grande salle de l'opéra où il y avait de l'opéra et de la danse.
Et lui, c'était plutôt axé sur le jazz et les musiques
et la musique du
monde.
Au début, c'était vraiment très très marqué aussi musique du monde. Mais c'est vrai qu'il a réussi à donner une personnalité à cette salle. C'était pas gagné d'avance. Et en même temps, il avait réussi aussi à créer une charte, à se rapprocher aussi d'autres associations du quartier. Enfin, il avait créé vraiment quelque chose, une belle programmation. Et puis, bah oui, les choses ont une fin. Et là, a priori, on a donc demandé à Olivier Conan, qui est un New-Yorkais, si vous voulez, dans l'âme et dans la musique. Et donc qui amène ça avec lui, de changer un petit peu les choses. Donc les concerts underground ne seront plus que dans l'amphi, mais ça sera aussi en grande salle. Je vous rappelle que le premier concert devait être avec Rachita, le 22 septembre dernier.
Et il est mort quelques jours avant.
Et voilà, ben, c'était pour une soirée exceptionnelle, hommage et anniversaire. Donc ça devait commencer comme ça. Et quand on regarde là une programmation qui est déjà établie jusqu'à décembre, effectivement on va se balader entre le jazz... Et puis aussi l'Afrique en particulier, et puis d'autres rendez-vous. Donc l'idée, c'est d'éclater les genres. Olivier Conan, a priori, ne veut pas rester dans des mettre les choses dans des cases. Donc il se balade un petit peu sur des projets un petit peu particuliers. J'imagine que le but aussi, c'est de rénover un public, parce que hier encore, on a vu que tu étais presque jeune, dis donc, dans la salle.
Non, mais du coup, quand il commence avec son truc underground là, je me dis, on fait jouer Luis Clavis, c'est pas underground. Luis Clavis, on l'a vu des millions de fois, on le connaît par cœur, et le public était un public super âgé. Du coup, cette soirée-là, elle est peut-être pas représentative de ce qu'il veut faire, parce que sinon il va pas renouveler le truc, hein, c'est perdu d'avance. Pourtant, dans la programmation, les trucs qu'il va faire après, c'est beaucoup moins connu, on verra ce que ça va drainer comme public. Il a cette volonté de changer, effectivement, de renouveler le public, qui est plutôt âgé. Quand même, dans le jazz, c'est écouté par les plus de 50 ans. Hein. Faut pas se leurrer. Hein.
Oui, lui, ce qu'il veut, c'est amener la musique hybride. Donc là, par exemple, moi, il y a d'autres choses un peu de jazz. Hein. Il va y avoir Ben Sidran, par exemple. Alors, c'est pas forcément très facile. On a les Voodoo Games qui arrivent. On a Marc Ribot avec un. C'est pas non plus tout à fait.
Non, mais Marc Ribot.
Facile.
Ah, si, ça se dépend du Marc Ribot.
Ben là, je sais pas.
Mais Marc Ribot, il n'est pas tout à fait dans le jazz, il est dans la musique expérimentale, mais c'est une star. C'est un petit peu la star de la musique un peu expérimentale. Pas toujours audible, je suis d'accord avec toi, pas toujours facile d'écoute en tout cas, mais c'est quand même une super star.
Moi, j'y serais bien allé, sauf que c'est un jeudi, pendant que nous sommes à l'antenne, on ne pourra pas y aller. Et puis, par exemple, il y a You Can Dance qui est appelé Ethio-Rock, et donc là c'est aussi des choses intéressantes, une certaine nouveauté qui à mon avis peut aussi faire bouger cette salle et cet amphi. Moi ce que peut-être on peut juste reprocher, c'est que jusqu'à présent il y avait, je reproche pas vraiment, c'est juste une remarque, c'est qu'il y avait des cartes blanches sur 3 jours avec des résidences, des artistes qui s'installaient, et c'est vrai que c'est bien aussi des fois de laisser des gens s'installer pendant 3 jours dans une salle. Là c'est des concerts uniques, ça change la donne, ce qui fait évidemment les prix sont un peu différents, parce que ben, quand vous faites venir des artistes sur 3 jours, ben, je vais pas vous faire une histoire du cachet, et ben ça change la donne.
Oui, avant c'était quand même vachement abordable.
Oui, ça l'est un tout petit peu moins.
Ça l'est un peu moins, oui.
Voilà, selon les concerts, il y a aussi des prix un petit peu différents. Donc voilà, allez vous intéresser à la programmation de cette salle.
C'est les 3 premiers mois, on va voir ce que ça donne sur le long terme.
Il y a au moins des choses, je pense, très intéressantes. A priori, il va accélérer le rythme sur la seconde partie de la saison. Donc je pense que c'est vraiment un endroit à continuer à suivre, même si vous êtes un peu désarçonné, vous connaissez pas tout dans la programmation. Moi, il y a des choses que je connais pas du tout. Et ben, je pense que c'est un petit peu l'occasion aussi de découvrir ce qui peut passionner un nouveau programmateur de salle. Et c'est la fin de ce Canu Info, donc je vous parlerai pas de Bansky.
Ouais. Et Robin, il a fait ça. Voilà, un coup comme il sait faire, et c'était un peu classe, quoi.
Ouais, c'est un peu classe. Pour faire très très vite, il a vendu une œuvre. Quand le marteau s'est abaissé, c'est l'œuvre avec, vous savez, le ballon en forme de cœur avec une petite fille accrochée qui s'envole, donc qui était vendue dans un joli cadre doré, et au moment où le coup de marteau donc s'est abaissé, qui donc 1 million d'euros quand même, il faut le dire, alors que c'était au début estimé à 230 000 euros, donc déjà bah, ça a fracassé les prix. Et ben il y a eu une alarme qui s'est déclenchée, et le petit ballon et la petite fille, c'est-à-dire le papier, est descendu dans le cadre.
Le ballon est resté, c'est que la petite fille qui est descendue.
Ça s'est broyé.
Ouais, enfin ça fait des, ça a fondu le papier, ça
oui,
fait des lanières.
Et broyeuse à papier, quoi.
Savez, il a montré une petite vidéo de la comment ils avaient réalisé le système. Banksy, il fait de la provoque. Ce que moi je trouve ça bien, j'aime bien les tags, tout ça. Je trouve c'est, il a un travail sympa, dénonciateur, toujours politique. Il a fait ça sur le mur Bethléem. Voilà, c'est pas mal. Je noterai qu'il y en a qui comprennent pas son travail. J'ai été assez surpris de l'édito absolument horrible de Riss dans Charlie Hebdo, qui considère que ce que fait Banksy, c'est de la merde. Moi, je suis pas d'accord avec lui. Il faut que vous appreniez, Monsieur Riss, à respecter tous les artistes. Vous avez le droit de dire que vous aimez pas, parce qu'on n'est pas obligé d'aimer, mais dire que ça représente rien, que c'est une sous-merde, Banksy, non, je suis désolé, c'est un artiste de rue qui a du talent et qui nous a
choses, parce que là en fait il voulait dénoncer justement
message,
le,
et qui,
la
contrairement,
sûre.
Ouais, parce qu'alors Riss du coup il va comparer avec des vieux peintres qui étaient des collabos du régime en place, voilà, et ben je suis désolé, mais moi je préfère voir une œuvre de Banksy plutôt qu'un collabo du 17e siècle qui travaillait pour le roi, voilà, et en fait j'ai même pas envie de mettre de la politique dedans, on aime, on n'aime pas, et voilà, Riss a été minable.
Ouais, puis il y a des gens qui reprochent à Banksy de voilà, voulu soi-disant critiquer les dérives spéculatives du marché de l'art, alors que a priori son œuvre pourrait d'un seul coup valoir encore plus cher, mais ça veut dire que il a raison, parce que du coup il détruit son œuvre et d'un seul coup elle va être encore plus chère. C'est-à-dire qu'il y a des ballots dans le monde qui sont prêts à acheter une œuvre détruite parce qu'ils vont la revendre. Enfin, donc il y a une spéculation et il a raison parce que c'est ce qu'il a démontré.
Mais ce que d'autres ont fait avant lui, rappelons-nous de ces toilettes là qui avaient été mises.
Oui.
Voilà. Bon, qui
était pas le premier.
C'était de la provoque pure et après ça se retourne finalement quelque part contre son discours puisque ça vaut plus cher.
Après, oui, mais du coup, il démontre la vérité.
Tout à fait. Puis il va au-delà de ça. Bon, voilà. Si vous aimez pas le tag ou le pochoir, ça vous parle pas, mais sinon, il y a un livre qui existe sur Banksy où il y a pas mal de choses sympas. Et puis, il est tellement à la star que quand il va faire des pochoirs, les mecs vont découper le mur pour le revendre.
Et
c'est
puis,
atroce. Le pauvre, il en chie.
Il est tellement politique qu'il y a des gens aussi qui détruisent ses œuvres parce qu'ils dénoncent des choses.
Ouais. Voilà. Allez, on va faire un petit agenda parce que c'est la fin de ce Canu Info. Donc demain, à la librairie La Griffe, à 19h, on sera vendredi 12 octobre. Il y a présentation des livres de deux membres d'Action Directe, anciens membres d'Action Directe, groupe d'extrême gauche. Groupe armé d'extrême gauche que vous connaissez tous et toutes, je pense. Donc il y a Jean-Marc Rouillan et Aurélien Dubuisson. Jean-Marc Rouillan étant quand même une star de Action Directe, entre guillemets. Donc voilà, c'est l'occasion de reparler de cette lutte armée qui est pas toujours défendable, mais qui permet d'amener des discussions. Samedi, à 15h, a priori place des Terreaux, si j'ai bien compris, une nouvelle marche pour le climat, comme celle du 8 septembre. Il y avait beaucoup de monde, je sais pas si ça sert à quelque chose, mais bon, si vous voulez vous mobiliser, c'est toujours l'occasion de le faire. Le 16 octobre, mardi, ce sera la Plume Noire à 19h, il y a une rencontre avec un réalisateur de documentaire, du documentaire qui s'appelle Belki Sibé, donc ça c'est le nom du documentaire. Il y aura le réalisateur, c'est autour, c'est sur voilà, la lutte politique, notamment au Rojava, donc en Syrie, avec les Kurdes. Et puis 18 octobre, jeudi prochain, pendant le Canu Info, vous aurez une rencontre débat avec Jean-Marc Royer, qui a écrit Le Monde comme projet Manhattan, : les laboratoires du nucléaire à la guerre généralisée du vivant. Donc ça part, c'est un truc autour du nucléaire, du projet Manhattan, hein, on fabrique la bombe atomique, etc. Et c'est un livre qui dénonce un petit peu tout ça. Donc c'est à 19h, librairie Terre des Livres, jeudi 18 octobre, c'est 86 rue de Marseille, dans le 7e.
On vous laisse. Pas d'émission après nous ce soir. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un Canu Info. Il est temps qu'on arrête parce que Laurent est en train de s'étouffer définitivement. Et on vous laisse donc avec les bandes continues.
Bye bye.
Ciao.